L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'actu sur un plateau. Au programme aujourd'hui, nous recevrons deux invités. En seconde partie d'émission, nous nous échapperons exceptionnellement du côté de Clermont-Ferrand avec Laura Thomasset, qui est attachée de presse du festival de courts-métrages qui s'est tenu du 29 janvier au 6 février dans une formule complètement digitale. Les organisateurs sont de plus en plus nombreux à s'y résoudre. Coulisses du festival, mise en place et retour sur expérience de cet événement en ligne. Laura Thomasset répondra à toutes nos questions en deuxième partie d'émission. Pour le moment, c'est l'heure d'accueillir notre première invitée.
L'invité de l'actu social.
Bonjour Nicolas Bestard.
Oui, bonjour.
Alors, tu fais partie du collectif Parentalité 2MIO, donc ce collectif qui met en place des actions tout au long de l'année autour des thématiques de l'enfance, de l'adolescence et de la parentalité, évidemment. Tu es aussi animateur au sein de certains ateliers. Tu animes d'ailleurs un petit déjeuner parentalité mardi 16 février et on en parlera juste après. Mais peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Oui, avec plaisir. Donc, je suis formateur et animateur au sein de l'association Envie en jeu qui est basée à Millau et qui est une association qui travaille sur tout ce qui est relations interpersonnelles, donc gestion des violences, prévention des violences, gestion des conflits et développement des pratiques de coopération. Mmh. Voilà, et à ce titre, l'association, elle travaille depuis très longtemps sur aussi tout ce qui est non-violence éducative. Et donc, c'est avec plaisir qu'on a rejoint le collectif de soutien à la parentalité quand il s'est créé en octobre 2011.
Mmh. Et alors, le collectif parentalité, on va en parler justement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'histoire de ce collectif, comment ça se passe? Toi, tu y es depuis le début, c'est ça?
C'est ça. Bah, en fait, en octobre 2011, il y a la crèche de Millau qui avait organisé une conférence en faisant venir Jean Epstein. Donc, c'était au théâtre de la Maison du Peuple. C'était une grosse conférence qui avait réuni plus de 250 personnes. Et la CAF, qui avait financé cette action, avait demandé qu'il y ait un questionnaire proposé aux participants à la conférence, qui était aussi bien des parents que des professionnels, s'ils souhaitaient participer à la création d'un collectif, donc avec une idée de mise en réseau. Donc, il y a eu quand même des dizaines et dizaines de questionnaires qui ont été remplis. Et il y avait une invitation, quelques jours plus tard, à une réunion. Et donc, voilà, on s'y retrouvait quelques-uns. Et de 2011 à 2013, en fait, on est allé dans différentes villes où il y avait déjà des activités qui étaient menées sur le département. On a réfléchi à ce que l'on voudrait et pourrait faire ensemble. Et on a commencé des activités de manière très concrète en 2013. Et depuis, le collectif n'a cessé de se renforcer avec des gens qui viennent, qui vont, des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et on a mené tout un tas d'activités de plus en plus nombreuses et diversifiées.
Mmh. Le collectif Parentalité de Millau, c'est un ensemble de personnes qui sont souvent dans des assos différentes et qui se lient vraiment ensemble.
Alors, c'est un collectif qui est très particulier. Alors, il y a différents collectifs en Aveyron, mais celui-ci est pour particularité le fait qu'il regroupe aussi bien des professionnels que des parents. Mmh. Et ça, depuis le départ. C'était vraiment un choix de notre part de dire, c'est pas un collectif de professionnels, c'est un collectif de personnes qui s'intéressent à une parentalité non violente, positive, pour utiliser un terme un peu tarte à la crème, mais en tout cas, basée sur le travail autour des émotions, des besoins de l'enfant, des besoins des parents, et accompagner les personnes pour trouver des manières de faire, des stratégies qui leur conviennent. Nous, on n'est pas là pour décider de quels sont les bons choix éducatifs, mais en tout cas, on propose des outils, des réflexions, des pratiques permettant de sortir un peu de comportements ou d'actes qui ne nous satisfont pas toujours en tant qu'éducatrice ou éducateur au sens large, mmh, et donc de parents. Après, le collectif, il est regroupé de personnes qui se réunissent en moyenne une fois par mois, des fois un peu plus lorsqu'il y a des choses organisées. Et tout le monde est bénévole pour ce collectif. Que l'on soit des professionnels ou que l'on soit des parents, on est toujours bénévole. Voilà, alors après, c'est coordonné par les centres sociaux qui disposent d'un accompagnement financier de la CAF, parce que c'est quand même beaucoup de travail, de dossiers, etc. Mais en tout cas, c'est du bénévolat et c'est de l'implication avec une forme de militantisme. Sachant que dans ce collectif, on va trouver aussi bien effectivement des associations comme Envie en Jeu, Myriade, Le Barbouille, bon, tout un tas, les centres sociaux, et puis aussi des professionnels de la MSA, de la CAF, CMPP, de la classe passerelle, des gens des écoles, enfin, c'est très très large. Mmh. Et puis des parents, et des grands-parents, selon les moments.
Et alors, pour les gens qui seraient intéressés, est-ce que tout le monde peut rentrer dans le collectif, même des gens qui sont, des parents qui sont pas forcément issus d'une association?
Bah, tout à fait. Ouais. C'est vraiment ouvert, c'est-à-dire que le collectif, il a un téléphone et il a une adresse mail. À chaque fois qu'on organise des activités, on propose un questionnaire aux personnes leur demandant plus exactement quels seraient les thèmes que ces personnes souhaiteraient voir traités. Mmh. Les types d'âge, les types de thématiques, etc. Et il y a toujours possibilité de laisser son téléphone, son mail pour être joint, être tenu informé et ou participer aux actions du collectif de manière très concrète et pratique.
Et alors au niveau des actions, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des thématiques, nous dire ce qui est fait au quotidien, enfin au cours de l'année?
Oui, alors ça va être un peu large, hein. 2020 ayant été une année un peu particulière pour nous, même si on a réussi à tenir quasiment tout ce qu'on avait prévu, de manière un peu miraculeuse. Donc on a pu faire des spectacles grand public autour du thème de la parentalité, au Théâtre de la Maison du Coeuf, ou bien Salle René-Rieux. On a animé des ateliers sur le thème des pères. C'est quoi être père aujourd'hui? Mm-hmm. Avec aussi un peu des retours sociaux et historiques sur la question. Il y a eu tout un tas d'ateliers autour de la fratrie. Il y a eu ce qu'on appelle les petits-déj parentalité. Donc généralement, quand on peut le faire en présentiel, il y a en même temps les enfants qui sont gardés par des activités jeux coopératifs, ce qui permet aux personnes seules ou au couple d'assister à ces ateliers-là. On fait aussi des cafés parentalité, donc là c'est plutôt en soirée, avec aussi tout un tas de tables rondes. On a pu faire des conférences pour les professionnels, mais aussi des conférences tout public. Là, on prévoit également bientôt une conférence parler de la sexualité avec les ados. Là, il y a aussi un autre petit déjeuner sur le thème des limites, en fait. Mm-hmm. Fais pas ci, fais pas ça, jusqu'où peut-on les laisser faire? Voilà, donc on a vraiment un spectre très riche d'actions. Et puis chaque année, depuis maintenant 3-4 ans, on a aussi une activité autour de la semaine, plutôt de la journée de la non-violence éducative qui a lieu le 30 avril. Et cette année, le collectif a choisi de faire une action un peu massive, décentralisée dans toutes les structures et pendant toute une semaine.
Et alors, toi, Nicolas, tu es donc bénévole dans l'association, dans le collectif, excuse-moi. Et, oui. Et à côté de ça aussi, tu animes certains ateliers.
Oui.
Et ça fait combien de temps, toi, que tu fais ça?
Alors moi, je fais ça, on va dire, pour le collectif depuis 2013, puisqu'on a commencé nos actions depuis 2013. Après, je fais des activités liées au soutien à la parentalité depuis plus longtemps que ça. Mmh. Donc, 2011 pour ma part, et l'association depuis plus longtemps également.
D'accord. Donc, entre, on va dire, l'arrivée du Covid et l'avant, t'as sûrement dû voir une différence, peut-être même au niveau du public. J'imagine qu'avec la crise, depuis un an, vous avez dû faire face à de nombreux tumultes entre les enfants qui vont moins à l'école, le port du masque pour les enfants, les parents qui doivent être plus présents à la maison. Comment vous avez géré la situation?
Quand il y a eu le premier confinement, là, en mars, assez rapidement, la caisse départementale a mandaté 6 structures, 6 personnes qui sont des intervenants, on va dire, référencés en Aveyron, pour animer des visios, en fait. Assez rapidement, on a eu l'idée de créer d'abord des fiches actions, voilà, des fiches informatives autour du stress, de la peur, autour des écrans, enfin autour de toute une thématique. Ça peut se voir, les fiches sont toujours visibles sur le réseau parents en Aveyron. Donc là, il y a un espace confinement. Donc il y a toute une série de fiches qui ont été rédigées et ensuite qui ont été couplées à des visios, des ateliers en visio sur inscription où mes collègues et moi, du coup, des différentes structures, on a pu regrouper les parents sur inscription qui étaient intéressés par telle ou telle question.
Et donc voilà, vous avez réussi à vous adapter
peurs, autour de qu'est-ce que génère la Covid, comment accompagner les enfants, comment leur en parler, enfin tout un tas de choses comme ça.
Mmh. Et au niveau du public, est-ce que vous avez noté un plus grand nombre de personnes qui aient besoin de soutien ou de réponse qu'auparavant?
Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où il y a eu pas mal d'activités qui ont été arrêtées de fait, et les visios, ne serait-ce que pour des raisons techniques, sont limitées généralement à 8 personnes. Donc même si on a démultiplié les visios, de fait, on a pu contacter moins de personnes qu'auparavant. Il y a eu aussi un effet sidération, et les conditions du confinement ont aussi fait que les gens ont été en télétravail, les enfants n'ont pas pu aller à l'école, donc il y avait aussi pas mal de tensions autour de l'usage des écrans, déjà de l'accès aux écrans. Et ce qui s'est produit aussi, c'est que reproposer des activités en visio, c'était parfois un peu too much. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, ils n'ont plus les écrans, donc ça a aussi un peu cet impact. Par contre, chacune des structures, évidemment, avec son propre public a assuré de la veille, en téléphonant aux familles, en téléphonant aux gens, en faisant de l'écoute. Il y a eu aussi une cellule d'écoute qui a été mise en place. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites pour ne pas perdre le lien. Après, les remontées, elles étaient très claires. Hein. Que ce soit de mars à mai, mais ensuite également, il y a des tensions dans les familles, il y a des inquiétudes, il y a des soucis, il y a des troubles, il y a beaucoup d'anxiété. Et puis on l'a bien vu également en lisant les médias, il y a des violences conjugales, il y a des violences sur enfants, il y a tout un mal-être en fait, tout un mal-être.
Et oui,
donc
vous...
oui, il y a les problèmes de santé liés à la Covid, et puis ensuite tout ce qui est généré avec des questionnements autour du masque, avec des questionnements autour des émotions, le fait de pouvoir voir ou pas le visage, qu'est-ce que ça va générer en termes d'apprentissage de l'empathie. Ben voilà, il y a tout un tas d'inquiétudes qui effectivement sont très vivantes aujourd'hui encore.
Et vous, j'imagine que dans le collectif, vous avez dû vous adapter un petit peu à tous ces nouveaux questionnements, peut-être aller chercher du côté de personnes que à la base vous auriez peut-être pas été contactées ou j'en sais rien.
Alors nous, on a toujours souhaité être ouvert au plus grand nombre, donc on n'a jamais ciblé de public en réalité. Donc dans nos ateliers, il y a des profils extrêmement variés, non seulement en termes de type de personnes, mais aussi de localisation. C'est-à-dire qu'il y a dans nos ateliers, il y a des gens qui viennent de 30 km à la ronde facilement, et voire plus sur des spectacles ou des conférences. Là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que chacune des structures du collectif organise elle-même des ateliers parentalité. C'est-à-dire que le collectif permet de mutualiser et de renforcer les pratiques, de créer une culture commune au niveau des structures qui font du soutien à la parentalité. Et ça, ça nous permet de toucher plusieurs centaines de personnes ensemble, mais aussi chacune des structures a ses propres particularités. Et donc le collectif a plutôt pour objectif, finalement, de démultiplier les actions déjà existantes et de les coordonner quelque part en les relayant, les faisant connaître. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on touche tous ensemble et unis énormément de familles en réalité. Depuis le pôle petite enfance, qui est quand même un gros acteur de ce collectif, jusqu'à des gens qui interviennent avec les ados.
Et alors justement, les ados, on va en parler. Toi, Nicolas Bessard, tu vas animer mardi 16 février un petit déjeuner parentalité qui sera à 20h30, je le précise.
Oui, pourquoi pas.
Donc ce sera sur le thème des ados et des écrans, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je l'introduis ici. Donc ça s'appelle Parents d'ados, quels écrans pour quels usages, et nous là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la forme que ça va prendre cet atelier?
Alors, les ateliers que j'anime sont souvent basés sur le fait de questionner nos pratiques, nos représentations, et de voir finalement dans ce que l'on fait, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient moins, qu'est-ce que l'on fait un peu par automatisme, souvent parce que il y a de l'impensé dans les pratiques éducatives, et puis lorsque c'est des stratégies qu'on a choisies, des choses qu'on veut mettre en place, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est exactement ce que l'on veut vivre, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des résistances, quand ça ne fait pas consensus. Et donc, voilà, il y a un peu de l'échange de pratiques, de réflexion commune, et aussi des apports théoriques autour des neurosciences, autour de ce qui a été étudié en sociologie, en histoire. Donc, c'est à la fois permettre de s'exprimer, poser des cas concrets, essayer de voir ensemble qu'est-ce qui favorise et qu'est-ce qui freine dans les relations, finalement, un fonctionnement plus coopératif au sein de la famille. Et pour chacune des personnes qui composent la famille, il y a des choses plus justes, moins dans la résistance, moins dans la confrontation, et plus dans la complémentarité et l'entraide. Donc concrètement, là par exemple, le choix qui a été fait n'est pas de poser la question de l'utilisation par les ados des écrans, ce qui est un sujet assez courant, mais plutôt d'interroger les ados, d'accord, mais nous aussi comme adultes, quel rapport avons-nous aux écrans? Parce que souvent, on met des interdits aux ados, ou il y a des rapports de force autour de l'usage des écrans, du nombre d'heures, etc. Il faut même se rendre compte que nos propres usages, en fait, peuvent être questionnés. Et du coup, les ados nous renvoient souvent nos propres contradictions. C'est-à-dire, on leur demande de faire des choses que nous ne nous appliquons pas nous-mêmes. Donc là, c'est plutôt l'idée de réfléchir de manière tout à fait bienveillante et détachée à tout ça. Sachant que l'année 2020, étant ce qu'elle est, télétravail, ENT et autres, évidemment, la question des écrans a pris beaucoup plus de place. Et aujourd'hui, ne poser la question qu'en termes de temps d'usage que de temps d'écran, c'est effectivement limiter un peu la réflexion. Les usages, pourquoi faire, dans quelles conditions, avec quels avantages, avec quels risques, et aussi comment on arrive à se rencontrer sur nos usages. Parce que des fois, on peut aussi avoir tendance à avoir peur de l'usage que les ados ont des écrans, mais sans vraiment la connaître. Du coup, il y a des projections, des incompréhensions, et ça vaut le coup de se parler aussi, simplement.
Et oui, c'est ça, parce que outre l'aspect, on va dire, théorique de l'apprentissage, c'est aussi un temps d'échange entre parents et puis, sûrement professionnels qui sont aussi là pour pouvoir apporter leur point de vue. Mais ça permet aussi de se retrouver sur cette thématique pour les personnes qui sont touchées par la même chose.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on fait des ateliers, alors quel que soit le nom de l'atelier, quelle que soit la forme, un peu thématisés, ça vise justement à permettre à des gens qui ont des problématiques et des questionnements un peu similaires aussi d'être dans l'entraide concrète, de s'apporter des réflexions, et toujours en veillant à ce que ça soit fait, non pas sous forme de jugement sur ce que tel ou tel fait, mais plutôt de partage d'expérience, en fait. Qu'est-ce qui a été plutôt efficace, plutôt pas efficace, quelle réflexion ça m'a évoqué, voilà, il m'est arrivé ça, je me sens impuissant, je sais pas quoi faire. Et du coup, que ça soit les parents ou la personne qui anime l'atelier, on est en capacité, finalement, de créer du soutien concret.
Et alors Pardon, je t'en prie.
Non, c'était juste pour dire, après, sachant qu'il n'y a pas de baguette magique, hein, en matière de relations, chaque expérience est unique, et ce qui a pu être efficace pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Donc, c'est vraiment de l'exploration, de l'expérimentation, et tout ça mérite évidemment beaucoup de bienveillance à commencer par nous-mêmes. Nous ne sommes pas parfaits.
Oui, et le rappeler aux parents, j'imagine que ça doit faire du bien. Là, le sujet traité, donc, c'est autour de l'adolescence. Est-ce que c'est un choix de ta part? Parce que est-ce que chaque animateur a une spécialité ou finalement, tu aurais très bien pu traiter d'autres thématiques comme la petite enfance, par exemple?
Alors, personnellement, je suis pas branché petite enfance parce que je travaille avant tout sur la coopération. Et la coopération en 5 ou 6 ans, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait. Donc c'est vrai que je me sens plus à l'aise pour parler des sujets de soutien à la parentalité à partir de 5-6 ans, si on parle des enfants. Après, oui, c'est un choix que j'ai eu de travailler sur les ados, mais c'était une demande des parents. C'est-à-dire que dans les questionnaires, c'était une question qui revenait fréquemment.
Alors c'est un atelier qui est gratuit, mais sur inscription. Donc ce sera par visio, hein, bien sûr, comme tu en as parlé là tout à l'heure, évidemment, ça se fait par visio. Donc vous pouvez vous inscrire encore jusqu'à dimanche 14 février. Et pour vous inscrire, je vais vous donner une adresse mail. Donc c'est collectifparentalité.mio@orange.fr.
Je voudrais juste préciser que c'est gratuit pour les parents et donc c'est socialisé, c'est-à-dire que c'est la CAF qui finance ces activités-là. Donc c'est bel et bien gratuit, mais il y a quand même un choix de la CAF départementale, et ça je tiens à le dire parce que c'est pas forcément le cas toujours, vraiment de soutenir des démarches qui permettent à tout le monde d'y avoir accès.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Bestard.
Avec plaisir.
Et puis, ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi vous tenir informé des nouvelles actions du collectif sur la page Facebook, parce qu'ils ont une page Facebook, et un site internet. Donc, vous trouvez toutes les informations sur le site internet. Merci beaucoup, Nicolas Bestard.
Avec plaisir. Au revoir à tout le monde.
En parlant d'écran, justement, on va se faire une courte pause musicale avec le titre « Les écrans » des Oufris Maracas.
Thank you. J'en ai ras le bol de ces écrans qui essayent de voler mon âme, qui me font vivre des enterrements alors que je traverse Paname, qui me font oublier les gens insensibles à mes états d'âme, trop occupé à essayer de géolocaliser ma femme. Je voudrais t'envoyer valser parce que je vois bien que t'es biaisé. Ils se sont partagés le gâteau, ils ont même bouffé les couteaux. Puis leur pognon c'est du mytho, font crever la moitié des gens pour maintenir leur foutu taux. Et puis ils se disent intelligents, il y a deux fois et demi à bouffer pour tout le monde sur cette planète. C'est un problème de répartition, donc arrête de partir par le net, puisque leurs banques sont en réseau, qu'ils ont aucune difficulté à assurer des livraisons de pesticides au Zimbabwe. Moi je voudrais leur péter la gueule, et je parie que je suis pas le seul. J'ai ras-le-bol de ces écrans qui ont hypnotisé ma femme, qui lobotomise mes enfants à coups de McDo et de Spider-Man, véhiculant en permanence des images de premier choix sur je ne sais quel conflit sanglant qui fera l'objet de leur choix. Moi je voudrais leur péter la gueule. Que je suis pas le seul. J'en ai ras-le-bol de ces écrans qui trouvent plus mon numéro de keuf, alors qu'ils trouvent si facilement toutes mes amendes SNCF, à croire que dans chaque ordinateur et un cerveau de petit faf qui ne veut compter les zéros que quand il s'agit des bénéfs. Moi je voudrais leur péter la gueule. Et l'on parie que je suis pas le seul. Ces écrans qui sont bien tout ce que je bouffe, à qui j'ai laissé mes enfants et avec combien de femmes je couche. Quand j'ai cette saleté dans ma poche, je prends sur le recoupement les fichiers. Je me dis que ma bonne femme tôt ou tard finira bien par me griller. Je me dis que de toute façon c'était foutu, que c'est pas la première partie de fesses, qu'il vaut mieux glisser sur un cul que passer sa vie à confesse. Au lieu de se mater un porno sur un écran de 32 pouces, je préfère aller à Bornéo et retrouver Zora Rousse. Et surtout leur péter la gueule. Paris, combien que je serais pas le seul. Je me dis quand même dépêche-toi, tant que t'as pas les puces sur les yeux, tant que t'as pas l'écran sur les doigts, tant qu'ils t'ont pas mis le wifi direct sur le leur auditif, tant que t'es pas dans ton cerveau en carré comme un fugitif. Dépêche-toi de t'arrêter la gueule. Enfilez d'un seul coup d'un seul. Dépêche-toi de leur casser la gueule. À 7 milliards ou même tout seul. Dépêche-toi de leur casser la gueule.
L'invité de l'actu culturel.
L'actu culturel. À présent, nous allons parler digital et plus précisément festival en ligne. Beaucoup s'y mettent, d'autres le rejettent. Nous recevons tout de suite en direct de Clermont-Ferrand notre deuxième invité. Bonjour Laura Thomasset.
Bonjour.
Alors vous êtes attachée de presse pour la presse locale du festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand qui s'est tenu du 29 janvier au 6 février et vous faites partie aussi de l'organisation de l'événement.
Oui, exactement. Je fais aussi partie du comité de sélection pour les films français.
Alors le festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand, c'est un événement avec des compétitions de films courts, nationales, internationales et labos. C'est aussi un festival de cinéma, un des plus renommés en France après Cannes bien sûr. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, même si j'en doute, peut-être que vous pourriez nous faire une petite présentation du festival.
Oui, alors le festival du court-métrage a tenu sa 43e édition cette année. Donc c'est un festival qui a déjà de belles années derrière lui et devant lui aussi. Donc on propose chaque année 3 compétitions. Donc la compétition internationale qui regroupe des films qui viennent de partout sur la planète et qui font moins de 40 minutes. La compétition labo. Donc là on retrouve des films qui sortent un peu plus des schémas traditionnels du cinéma. Et la compétition nationale où là les films peuvent faire jusqu'à 59 minutes. Et ce sont des films qui ont été produits, réalisés par des Français.
Est-ce qu'on pourrait mettre un petit mot supplémentaire sur labo pour ceux qui sont un petit peu perdus avec ce terme ?
Oui, bien sûr, c'est jamais évident de présenter exactement cette compétition, mais en fait, ça va être des films qui changent, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Donc on peut retrouver par exemple des films qui peuvent être projetés lors des expositions d'art contemporain. Il y a aussi des films de musiciens, d'artistes contemporains de manière générale, de danseurs aussi. Donc on se retrouve face à des films qui, en faisant un gros raccourci, on peut dire que ce sont des films expérimentaux, en fait. Voilà.
Et alors, en ce qui concerne l'édition 2021, est-ce que vous pourriez nous dire, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette programmation cette année ?
Alors cette année, la programmation surtout sur les compétitions, faisait vraiment la part belle à des thématiques un peu autour du collectif. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est ressorti de ce que nous avons pu vivre cette dernière année. Donc la solidarité, le collectif, et c'est ce qui est ressorti dans les compétitions, parce que les compétitions du coup sont faites uniquement de films extrêmement récents qui ont moins d'un an. Après, on avait aussi pas mal de programmes annexes, comme d'habitude au festival. Il y a des programmes, par exemple, il y en a un qui s'appelle Regarde Afrique, donc qui nous permet d'avoir un peu une idée de ce qui se fait en ce moment dans le cinéma africain. Et après, il y a aussi des cartes blanches qui sont données à des partenaires de longue date, comme Canal+, par exemple, où tous les ans, il y a une société de production, et cette année, c'était Ikifilm qui était mis à l'honneur sur un programme.
Et alors, la petite exclusivité, c'est que cette année, vous avez été contraint, au vu du protocole sanitaire, d'organiser le festival dans une formule complètement en ligne. Comment ça s'est passé au niveau de l'organisation ? Quelles ont été les étapes ? J'imagine que c'est pas le plus évident au début.
Oui, c'est clair. Après, nous, on a quand même eu une chance assez folle, c'est que l'année dernière, on a pu tenir notre festival en 2020. On a pu faire le festival 3 semaines après, c'était le confinement. Donc on a déjà eu cette chance, c'est qu'on s'est heurté au problème de la crise sanitaire pour la première fois cette année. Donc après le premier confinement, on a très vite compris que de toute manière, on ne pourrait pas tenir une édition normale en 2021. Et on a d'abord pensé à faire un festival hybride, c'est-à-dire qu'on réduisait l'événement en physique. Logiquement, le Festival de Clermont, c'est un festival extrêmement populaire et en fait, on peut voir des séances de courts-métrages dans toute la ville, dans les amphis des facultés, dans tous les cinémas de centre-ville et aussi un petit peu dans les quartiers extérieurs au centre-ville, dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Donc, on avait décidé de restreindre cet événement physique, de garder seulement 4 salles. En général, on a plus d'une dizaine de salles qui sont réquisitionnées pour le festival et de proposer aussi un événement en ligne. Donc, on était parti là-dessus. Ce qui fait que ça n'a pas été quelque chose de si compliqué pour nous de ensuite décider de faire un événement uniquement en ligne, parce que c'était déjà prévu de longue date. Et en plus, on a la chance, mine de rien, de pouvoir profiter des leçons qu'on tirait d'autres festivals. Parce qu'on est bien sûr en lien avec d'autres festivals de cinéma en France, des festivals de cinéma, d'animation par exemple, ou de court-métrage, comme le Festival du film de Brest, ou alors Annecy, ou le Festival du court-métrage qui se tient à Aix-en-Provence également. Tous ces festivals-là ont dû passer en ligne en 2020. Donc on avait déjà des liens avec eux, ils ont pu nous expliquer comment ils avaient fait pour passer en ligne. Donc on a pu avoir un coup de main aussi pour savoir comment s'orienter et passer totalement en ligne. Et ça a été décidé après les annonces du 7 janvier, si j'ai bonne mémoire. Juste après le 10 janvier, on a annoncé que le festival serait exclusivement en ligne. Ce qui a été bien sûr une petite déception pour nous quand même. Parce que le festival de Clermont, ça anime vraiment toute la ville de Clermont. Un des trucs qui nous représente le plus, je crois, au festival, c'est les longues files d'attente devant les salles, qui sont en fait un moment de rencontre en fait pour le public ou les spectateurs qui ne se connaissent pas forcément vont se conseiller des séances qu'ils ont appréciées. Donc c'était bien sûr un crève-cœur pour nous de se dire que tout ça n'existerait pas, mais on tenait tout de même vraiment à présenter la Jeune Garde du 7e art, malgré tout.
Oui, parce que il me semble que vous êtes vraiment très bien classé. Enfin, il y a vraiment des gens de partout qui viennent exclusivement pour ce festival chaque année.
Oui, effectivement, il y a des gens qui viennent de partout sur la planète parce que le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, c'est aussi un marché du film. Donc c'est le deuxième marché du film le plus important après celui de Cannes. Donc nous, c'est un marché du film court qui regroupe chaque année. En 2020, il y avait plus de 3500 professionnels qui viennent vraiment de partout. Il y a deux ans, il y avait des personnes qui travaillent chez Netflix qui sont venues. Après, on a des producteurs qui viennent autant de Turquie, du Canada ou d'Inde qui viennent pour voir un petit peu ce qui se passe à Clermont-Ferrand. C'est vraiment le rendez-vous numéro un de l'économie du court-métrage. Mmh. Donc, côté professionnel, déjà, c'est un événement très important. Et pour les spectateurs, c'est vrai qu'on a énormément de spectateurs fidèles parce qu'on propose des séances de films pour les tout-petits. Les maternelles peuvent venir voir avec leur classe des séances de court-métrage. Il y a des séances un peu pour tous les scolaires, peu importe l'âge, les terminales, les maternelles. Il y a des séances qui sont faites vraiment pour eux. Et après, en Auvergne, c'est vrai qu'on a beaucoup de festivaliers très fidèles et on avait dépassé la barre des 170 000 entrées en 2020.
Et alors, comment on passe d'un événement en ligne, d'un événement justement en présentiel qui brasse autant de monde à un événement complètement en ligne? Je veux dire, comment vous avez réussi à vous adapter au virtuel?
Eh bien, au sein de l'équipe, déjà, je crois qu'on s'est tous un petit peu, on a réinventé un peu nos postes, parce que c'est devenu quelque chose de totalement différent, puis on se lançait vraiment dans l'inconnu, donc il y a beaucoup de mes collègues qui se sont concentrés exclusivement à travailler avec la plateforme Kinao, qu'on a utilisée, du coup, avec qui on a collaboré pour pouvoir prévoir tout cet événement en ligne. Il a fallu aussi revoir un petit peu notre programmation, est-ce qu'on gardait notre programmation telle quelle pour la mettre tout en ligne. Donc on a fait des choix quand même. Il y a ce qui fait vraiment le Festival de Clermont, c'est les compétitions et les programmes annexes. Et souvent, ce qui donne la couleur un peu d'un festival, c'est qu'on a des programmes thématiques. Ça, c'est ce qui plaît le plus au public. L'année dernière, on avait une thématique sur les monts paysans. Cette année, on voulait faire une programmation sur le thème de la danse. Il y a énormément de très très belles choses à voir, beaucoup de beaux films sur la danse, mais les thématiques elles vont aussi, donc c'est des séances de court-métrage, mais pas que, c'est aussi des expositions, des rencontres, et on a décidé du coup de ne pas faire le programme thématique cette année en 2021 et de le remettre à 2022 pour que le public puisse vraiment profiter de l'événement dans son intégralité et pas juste accéder aux films en ligne. Mmh. Et idem pour on a aussi un focus, on a un pays qu'on met à l'honneur tous les ans, cette année ça devait être Taïwan. Pareil, on a décidé de remettre le focus à plus tard. Donc ça a été des choix un peu cornéliens à faire sur la programmation et une réinvention aussi au sein de notre équipe et savoir voilà, comment on allait pouvoir s'organiser, comment on allait changer nos postes, s'adapter et apprendre beaucoup, beaucoup de choses aussi, bien sûr.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a donc évidemment des actions que vous avez été obligé d'enlever. Est-ce qu'il y a des événements, il y a des choses que vous avez créées, peut-être, parce que c'est en ligne
Il a fallu changer nos habitudes. Après, on n'a pas fait de nouvelles programmations, par exemple. Mais il y a quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est que pour les compétitions, on a un prix du public. Mmh. Donc là, il a fallu s'adapter pour trouver un système pour que le public puisse voter en ligne. Donc ça, c'est des petites nouveautés qu'il a fallu mettre en place. Mais sinon, on a tenu vraiment notre ligne. On a gardé ce qui fait l'essence du festival, les compétitions et les programmes annexes. On n'a pas fait de nouvelles propositions en termes de programmation.
Donc, pour le festival, c'est-à-dire que chaque festivalier pouvait aussi avoir son ticket et accéder aux différentes, on va dire, plateformes des options qu'il avait prises, c'est ça?
Alors, en fait, cette année, on a voulu simplifier les choses parce qu'on s'est rendu compte sur d'autres festivals de cinéma de court-métrage que l'accès aux films en ligne, ça peut très vite être compliqué, en fait, pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Mmh. Pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les ordinateurs, tout simplement des personnes, nos aînés, des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ne sont pas forcément à l'aise. Donc, pour simplifier les choses, ce qu'on a proposé, nous, c'était un pass. Donc, il n'y avait qu'une seule offre. On ne pouvait pas acheter, par exemple, un accès pour une seule séance. On a acheté un pass pardon, qui coûtait 12 euros, donc ce qui est quand même pas très cher. Parce qu'avec ce pass à 12 euros, on pouvait accéder à absolument toute la programmation en ligne, ce qui représentait 63 heures et 40 minutes de film, 212 courts-métrages. Donc une fois qu'on avait ce pass, après c'était extrêmement simple, on entrait sur la plateforme et après les films étaient classés compétition française, internationale, labo, Regard d'Afrique, carte blanche à Canal+, et on pouvait tout visionner.
Et alors maintenant, on est presque une semaine après donc, la fin de l'événement, puisqu'il s'est terminé le 6 février. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un bilan? Quels sont vos retours sur cette édition?
Alors, on a eu quelques retours du public, ce qui était un peu abstrait pour nous parce qu'on a l'habitude de travailler dans notre QG pendant le festival du court-métrage qui est la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand. Et dans ces cas-là, en fait, on travaille dans notre salle et hop, on sort de la salle, on est direct confronté au public. Le public est juste en dessous, on croise tout le temps les festivaliers. Là, on ne les a pas vus. Donc, on a eu quelques retours, on commence à avoir un peu plus de retours des festivaliers, mais apparemment, ça a très bien marché et tout le monde a réussi à trouver des avantages finalement à cette version numérique. Il y a des séances, par exemple, qui sont diffusées peu de fois pendant le festival. Là, les gens se sont dit « Ah super, j'ai pas besoin de faire la file au risque de même pas entrer dans la salle, je pourrais les regarder de mon salon ». Donc apparemment, je crois que ça a plutôt bien marché quand même au niveau public. Et on voit aussi sur le nombre de passes qui ont été créées que ça a bien marché parce qu'on a quand même presque 16 000 comptes qui ont été créés pour accéder à la programmation en ligne.
Ah oui, donc le public
c'est des bons retours et c'est un pari tenu, quoi.
Oui. Le public était au rendez-vous. Enfin, je ne sais pas combien de passes sont vendues, je veux dire, chaque année quand l'édition n'est pas en ligne. Mais pour vous, je veux dire, le jeu a été joué, quoi.
Ouais, carrément. Oui, c'est clair. Après, c'est très difficile de comparer parce que quand on sait qu'en 2020, on a fait 172 000 entrées. Un ticket, c'est pour une séance. Là, un pass permettait d'accéder à toute la programmation. Et en plus, il y a des gens qui sont en coloc, il y a des gens qui sont en famille, qui achètent un seul pass. Donc, il n'y a pas forcément une personne derrière un pass. Mmh. Donc, on a un peu du mal à se rendre compte de combien de personnes ont pu profiter de la programmation, parce qu'on ne sait pas combien, s'il y a une, deux, trois, quatre personnes derrière un écran. Mais oui, le pari est tenu, ouais. Mmh.
Et donc là, post-festival, l'expérience en digital, au niveau de tout ce qui est organisation, quel regard vous avez au niveau interne, pas forcément par rapport au public?
Alors, pour nous, ça a été un peu spécial, du coup, cette année, parce qu'on est habitués à être tous ensemble pendant le festival. Et là, on ne pouvait pas être tous dans la même salle. On n'avait pas de véritable, vrai QG cette année. Il y avait une équipe qui travaillait dans un lieu qui travaillait uniquement sur le marché du film. Et c'était très nombreux que le marché du film était en ligne également. Dans une autre salle, il y avait les gens qui s'occupaient de gérer la plateforme Kino et surtout le SAV qui répondaient des fois aux personnes qui n'arrivaient pas à se connecter. Et il y avait encore une autre salle où il y avait la régie, le pôle communication. Donc pour nous, ça a été quand même assez étrange de travailler sans être ensemble et sans côté festif. On était à fond dedans, de toute manière, ça c'est sûr. Mais on était moins groupés et il y avait moins de moments conviviaux pour se retrouver. Mais voilà, l'essentiel, comme je disais, c'est qu'on ait réussi à faire plaisir à nos spectateurs. Donc, un festival un petit peu triste, on le savait, un peu moins festif, un peu... Ouais, c'était étrange de ne pas voir les gens, vraiment. C'était, je crois que c'est ce qui nous a beaucoup manqué, de ne pas avoir les retours en direct.
Et donc, en même temps, c'était... Ouais. Et en même temps, c'était ça ou rien, quoi, donc...
Ah oui, exactement. Non, il n'y aurait pas eu rien. C'est vrai qu'il y a certains festivals qui n'ont pas pu, qui ont décidé de ne pas faire une édition en ligne. Nous, on tenait vraiment à apporter aussi notre... comment dire? Parce que là, on a l'impression d'être un peu contraints, un peu frustrés, parce que l'accès à la culture, c'est quand même extrêmement compliqué, vu qu'il n'y a aucune salle de spectacle, aucune salle de cinéma qui est ouverte depuis déjà un bon temps. Donc, on tenait quand même à apporter la culture chez les gens. On n'avait pas d'autre choix et on a décidé de faire ça. En plus, c'est les films qui ont été produits il y a moins d'un an, c'est des films qu'on ne pourra pas reprogrammer par la suite. Donc, on tenait quand même à laisser la place aux créateurs de s'exprimer. Ils ont beaucoup de choses à nous dire, surtout en des temps aussi... étrange. Donc les créateurs, les réalisateurs ont beaucoup de choses à nous dire. C'était important qu'on soit quand même des passeurs à ce niveau-là.
Et justement, on parle des organisateurs qui n'ont pas fait ce choix, par exemple, du passage au virtuel. Quel regard vous portez justement face à ceux qui s'opposent un petit peu de manière virulente au passage au virtuel, justement?
Je peux le comprendre. C'est quand même... C'est quand même très compliqué déjà, de passer d'un festival en salle à un festival en ligne. Ça demande beaucoup de changements. Il faut revoir les droits de diffusion des films, par exemple, changent. C'est plus du tout la même chose de diffuser un film en ligne et de diffuser quelque chose en salle. Donc, je peux comprendre que ce soit compliqué et que certains festivals décident de ne pas proposer quelque chose en ligne parce que pour eux, ça dénature totalement le sens de leur manifestation. Donc, voilà, nous on a fait le choix de quand même être présent dans le quotidien de nos festivaliers pendant cette semaine de festival, mais je peux aussi comprendre que certains préfèrent attendre un an, peut-être plus, on ne sait pas, pour faire une vraie manifestation avec des gens qui se rencontrent, parce que c'est vraiment ce qui fait l'intérêt d'un festival, c'est la rencontre aussi, c'est la rencontre entre les créateurs et le public, et c'est ce qui nous a manqué. Donc je peux tout à fait comprendre les gens qui décident de ne pas passer sur du en ligne.
Et alors, post-expérience, une dernière question. Quel conseil vous pourriez donner à des organisateurs qui, pour le coup, n'ont pas encore sauté le pas et qui souhaitent, eux aussi, se mettre au digital ?
Bah, tout simplement, ne pas hésiter à contacter les organisations des autres festivals. Parce que c'est quelque chose qui, je pense, nous a vraiment aidés. Pas hésiter à envoyer des emails ou passer des coups de fil à des camarades du milieu culturel qui sont aussi dans des situations compliquées. Et s'ils ont tenté des choses, leur demander comment ça s'est passé pour essayer de faire un petit peu son petit cahier des charges et savoir dans quelle direction on a envie de partir.
Eh bien, merci beaucoup, Laura Thomasset.
Merci à vous.
En ce qui nous concerne, avant de se quitter, on va se faire une dernière pause musicale avec M et son monde virtuel.
Mais comment faire? Comment lui dire, comment lui faire voir ma planète artificielle? Mais comment faire, comment lui dire, comment lui faire croire que je changerai le bleu du ciel? Je vis dans un monde virtuel. Je sais bien que tu finiras par te détendre, toi qui préfères les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si tu finiras par te détendre. Dans ta tête, c'est la fête des nerfs. Moi qui vis dans un monde virtuel. Moi qui vis dans un monde. Explorateur, exploratrice de la troisième dimension. N'ayez pas peur si je me glisse dans votre imagination. Je vis dans un monde virtuel. Allez, explorateur, exploratrice de la troisième dimension. N'ayez pas peur si je me glisse dans votre imagination. Votre imagination. Votre imagination. Imagination. Imagination.
C'est C'est terminé pour cette émission de l'actu sur un plateau. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à nos invités, Nicolas Bestard du collectif Parentalité de Millau et Laura Thomasset, attachée de presse pour la presse locale du Festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Merci également à toi, Brice, à la technique. Vous pourrez redécouvrir l'émission ce soir à 19h sur les ondes ou à tout moment en podcast sur radiolarzac.org. La semaine prochaine, c'est l'émission Conflit de canards que vous retrouverez avec Gilles et Philippe. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux invités. À très bientôt sur Radio Larzac.
L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive tous les 15 jours.